Bonjour à tous, vous êtes sur le Théâtre de la Gamelle, une émission de théâtre radiophonique tous les vendredis de 13h à 14h sur Radio Canu. Me voilà très bien entourée aujourd'hui pour une carte blanche très très spéciale. Avec moi dans les studios, 7 jeunes filles qui jouent en ce moment le spectacle « Du sang sur les roses » écrit par Julie Rossello et mis en scène par Lucie Rébéré. C'est un spectacle de la compagnie Ring Théâtre qui joue à l'espace 44 rue Burdeau à Lyon, juste à côté de Radio Canu. Bonjour à vous mesdames, mesdemoiselles, bonjour Lucie Rébéré.
Bonjour.
Bonjour Margot Alexandre. Camille Radou, bonjour. Alice Pélivagnan, bonjour. Bonjour Laureline Lebricep. Valentine Vitoz, bonjour. Et Margot Griot. Bonjour à toutes. Il nous manque Iris Tristman, comédienne également, et Julie Rossello, l'auteur, qui ne sont pas là, mais elles nous écoutent, on pense à elles. Lucie Rébéré, metteur en scène, va nous dire quelques mots sur ce que vous allez entendre aujourd'hui. Très bonne écoute à tous.
Alors, Du sang sur les roses est une pièce de théâtre écrite par Julie Rossello, effectivement, et nous avons cherché tout ensemble, avec les comédiennes, à se poser la question aujourd'hui du féminisme, de l'engagement féministe de la jeunesse et peut-être questionner aussi le concept d'identité féminine. Donc c'est une pièce chorale avec 7 comédiennes et on va vous faire une petite lecture aujourd'hui, un petit jeu, une petite conversation de femmes. On y va les filles ?
On y va.
Okay, on y va.
Cette lettre a été comme un coup sur ma tête. Je l'ai relue 3 fois. J'aime pas mettre mon nez dans les affaires des autres, alors les juger. Partir en vacances, me faire signer un certificat médical. Je me suis renseignée, je pouvais pas y couper. La première lettre a été suivie d'une seconde. Je suis donc allée voir mon manager, il avait pas le choix, il m'a donné un congé. Je pouvais pas y couper. J'avais en ce temps-là presque oublié que j'étais inscrite sur les listes électorales. Puis une femme est entrée dans une longue robe noire. On m'a murmuré à l'oreille « La présidente de la cour !»
La cour est fille de la Révolution française qui fait de vous jurer des magistrats à part entière. C'est une fonction empreinte de noblesse et de dignité. Ce n'est pas compliqué, vous allez voir, cela requiert simplement 2 qualités. Du bon sens et du cœur. J'ai une voix comme vous. Vous ne pourrez pas vous reposer sur moi, vous ne pouvez pas échapper à votre responsabilité.
Je me sentais comme un poisson hors de l'eau. Comme à l'école, un jour de rentrée. Avec les autres, comme moi, on se regardait en chien de faïence. Et puis elle est apparue dans le box, vêtue d'une robe légère avec des chaussures de haute montagne aux pieds. Celle qui écrit, la greffière a dit « Penthesile von Kleist, 23 ans, célibataire ».
Penthesile von Kleist, 23 ans, célibataire.
Oui.
Je suis désormais tenue d'assister à tous les débats, de ne pas manifester mon opinion sous peine d'être remplacée par l'un de ceux assis sur le banc de touche. Puis on nous a demandé de lever la main droite et de dire
« Je jure et je promets d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X, de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux de la victime. Je jure et je promets de ne communiquer avec personne jusqu'à ma déclaration. Je jure et je promets de me rappeler sans cesse que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter. Je jure et je promets de me décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant ma conscience et mon intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui convient à un homme une femme propre et libre et de conserver le secret des délibérations même après la cessation de mes fonctions. Je le jure.
Je le jure. Puis la greffière a lu l'acte d'accusation et j'ai peu à peu découvert l'affaire. Je savais que l'intitulé de l'histoire était « meurtre », mais je ne savais rien de plus. Elle a résumé les faits. J'arrive pas à me concentrer.
Après de nombreuses analyses ADN, les médecins légistes ont identifié les morceaux de corps retrouvés sur les lieux comme étant ceux de Achille A, né à Paris le 7 juin 1981. Ont été décelées sur le corps de la victime de nombreuses traces de dents, des incisives d'après les experts. Canines, mais aussi humaines. Les compagnons du jeune homme ont rapidement mené les enquêteurs au pied de la présumée coupable, Panthée K. Celle-ci n'a montré aucune résistance et a reconnu immédiatement les faits qui lui étaient reprochés.
Après les relevés ADN des médecins légistes, des restes de chair de la victime ont été identifiés sur les dents de Panteca. D'après les enquêteurs, le crime n'a pas été prémédité.
J'arrive pas à me concentrer.
Panteca serait allé retrouver Achille A, où d'après le témoignage de ses amis, il l'attendait. Panteca se serait avancé vers lui, entouré de ses chiens. Il se serait aussi approché d'elle. Elle aurait alors fondu sur lui. Il se serait alors mis à courir pour fuir. D'après un des témoignages, Achille A aurait appelé à plusieurs reprises Ulysse et Diomède, deux de ses compagnons. Il a, semble-t-il, tenté de les rejoindre. Mais son chemin aurait été barré par un groupe de femmes, celle de la fédération fondée par Panteca. Il se serait alors dissimulé quelques minutes. Panteca, d'après un autre témoignage, aurait alors lâché ses chiens. Rapidement identifié par leur flair, Achille A aurait repris sa fuite. Panteca lui tire alors une flèche dans la nuque, il tombe au sol, il tente à plusieurs reprises de se relever. D'après les traces retrouvées dans le sable, il aurait rampé sur 5 mètres. Mais, d'après la déposition de l'accusé présumé, rapidement les chiens se seraient rués sur lui. Elle dit s'être ruée aussi, mais semble avoir oublié la suite. Les experts parlent d'une amnésie de quelques minutes produite par un choc brutal, un ictus amnésique. Un témoin affirme qu'il aurait tenté de l'appeler par son prénom, Panté, et ce, à plusieurs reprises. Elle dit qu'il aurait tenté de toucher sa joue avant de s'écrouler, morcelé.
Je n'arrivais pas à me concentrer sur ce qu'elle disait. Je me répétais ces mots « élu de la République ». Lorsque je suis passée de l'autre côté, je me suis sentie investie d'une fonction, d'une lourdeur que je n'imaginais pas. « Élu de la République ». J'ai respiré. Mon âge n'a plus d'importance, mon emploi ne compte plus, ma propre identité passe en second plan, en dehors de tout, en dehors du temps, ici. Je me suis dit, femme, tu y es, va falloir assurer.
L'accusée a entrouvert ses lèvres et a parlé, au début à voix basse, comme si elle nous demandait quelque chose doucement, comme si elle nous disait... Mesdames et messieurs, veuillez éteindre vos téléphones portables, s'il vous plaît. Je veux que tout soit calme, j'ai à vous parler.
Et là, sa voix est devenue plus claire, plus franche.
L'accusée entrouvre ses lèvres et parle, au début à voix basse, comme si elle nous demandait quelque chose doucement. Comme si elle nous disait « Mesdames, messieurs, veuillez éteindre vos téléphones portables, s'il vous plaît. Je veux que tout soit calme, j'ai à vous parler. » Et là, sa voix est devenue plus claire, plus franche.
C'était au début du printemps, pendant la fête des roses. Les Amazones et moi étions partis sur un terrain voisin où se battaient les Grecs et les Troyens. Parés au combat, nous marchions vers eux. Ils sont là. Nous sommes de chaque côté de la ligne maintenant. D'un côté, il y a les Grecs, conduits par Achille, et de l'autre, il y a les Amazones, conduites par moi. Deux camps comme ça, de chaque côté. Les deux camps s'entrechoquent. Il y a du sang partout. Et là, je le vois. Ses yeux, ses cheveux... Sa bouche, je le regarde, il me regarde, et là, paf, je me reçois une flèche. Je rentre au camp, les femmes demandent « Pourquoi as-tu mis autant de temps? Que s'est-il passé ?» Alors je leur raconte. Nous sommes face à face. Nos armes s'entrechoquent. Je tombe par terre, je roule dans la poussière au pied d'Achille, et lui, que fait-il? Il me prend dans ses bras. Ses doigts caressent mon visage. Tu n'as pas le droit, Panté. Tu brises la loi des reins. Retourne au combat, le mettre à terre. Non, ne retourne pas au combat. Oui, retourne au combat. Non, ne retourne pas au combat. Oui, non, oui, non. Vous avez raison. Je vais lâcher les chiens sur lui. Puis tout à coup, non, non, non. Je veux simplement l'attirer sur ce sein. Je ne veux plus prendre les armes. Je ne veux plus rien faire du tout. Alors Protoé, mon amie, m'encourage à me relever. Donne-moi la main, elle me dit. Je me relève. Achille avance. Les Amazones me mettent à l'abri. Je m'évanouis. Quand je me réveille, Protoé me dit « C'est bon, Achille est ton captif !» Alors je demande doucement à Achille « Viens, viens, approche maintenant. » Et je dépose délicatement sur son corps une guirlande de roses. Puis j'ordonne qu'on forge les anneaux qui rendent à jamais indestructible notre union. Or, à ce moment, il fallait attendre. Il fallait d'abord que nous rejoignions nos terres pour pouvoir nous vouer complètement l'un à l'autre. Mais à cet instant, Achille dit « Je ne comprends pas cette règle. Chez nous, nous n'avons pas les mêmes lois. » Alors je lui raconte. Là où vit à présent notre communauté, vivait un peuple libre. Mais un jour, un roi est venu avec son armée et ils ont fauché tous les hommes et ils se sont glissés dans les lits à la place des maris. Ils ont exigé par la force les gestes de l'amour. Alors pendant des nuits, les femmes ont fondu leurs bijoux pour en faire des couteaux et elles les ont caressés jusqu'à la mort. Elles créent alors un état indépendant de femmes qui se donne ses propres lois, qui ne servira plus le sexe masculin, qui se défendra, n'obéira qu'à lui-même. Pour tirer à l'arc et se battre, elles se coupent un sein pour se reproduire. Pour nous reproduire, nous organisons chaque année la fête des roses et nous allons chasser des hommes sur leur terre. Chaque femme doit vaincre un homme sur le champ de bataille et le ramener captif au QG. Là, ils s'accouplent et le dernier jour de la fête, nous renvoyons les hommes chez eux. Si le nouveau-né est un garçon, nous le jetons à l'océan. Cette fête a deux règles. 1. Interdiction de choisir son captif. 2. Interdiction d'en tomber amoureuse. Ma mère est morte. Quand j'ai saisi sa couronne, je me suis sentie investie d'une fonction, d'une lourdeur que je n'imaginais pas. Élue, j'ai respiré. Mon âge n'avait plus d'importance, mon emploi, ma propre identité passait en second plan. J'étais en dehors de l'espace, en dehors du temps. Je suis la nouvelle reine désormais. La communauté m'appelle Pantézilé. Mais tout à coup, Achille dit, tu vas accoucher pour moi d'un fils. Je ne vais pas te suivre chez toi. C'est toi que je vais asseoir sur le trône de mes pères. Tu es tombée merveille à mes pieds dans le combat et non pas moi au tien. Là, je comprends rien. Quelque chose me parcourt, c'est insupportable. Je le griffe, je lui crache à la face. Il me dit, mon amour, laisse-toi être ma captive. Moi, ta captive. Je le griffe, je le mords. Puis tout à coup, viens, viens avec moi sur mes terres rejoindre mon temple. Je te ferai construire le même temple chez moi. Et moi, viens, viens Achille, viens avec moi. Il me regarde fixement, puis il part avec ses compagnons plus de grecs. Alors toutes les femmes crient « Victoire ! Victoire ! » Taisez-vous, il n'y a rien à fêter, rien à fêter. Là, la grande prêtresse, très en colère, se rue vers moi et me dit « Non seulement tu choisis ton adversaire sur le champ de bataille, non seulement au lieu de le vaincre, tu as mordu la poussière, mais en plus tu te fâches contre ton peuple fidèle. Cours après Achille, mais surtout fous le camp !» Là, un messager arrive et annonce qu'Achille me défie encore une fois sur le terrain en un combat singulier à la vie et à la mort, afin que le couteau tranche à la face de tous. Qui de moi ou de lui est digne de lécher la poussière aux pieds de son adversaire? Est-ce que j'ai le désir d'un tel combat? Il s'est joué de moi, il m'a humilié. Je dis oui, oui, je relève le défi. Mes sœurs, apportez-moi les chiens, ramassez les pierres, je veux tout le face. Allez, dépêchez-vous, je veux être à l'heure, pile à l'heure de sa défaite. Les filles se pressent en tous sens, elles m'habillent, m'apportent mon matériel. De toute façon, elles n'ont pas le choix, je suis prête. Je me mets en marche, je m'avance vers lui. La grande prêtresse ordonne qu'on me bâillonne, on me dit reviens. Mais moi j'avance, je n'entends plus leur voix, je l'aperçois. Il relève la tête, il me regarde, je le regarde. Ses yeux, ses sourcils, son nez, ses lèvres, sa nuque, son torse. Et alors là, je lâche les chiens. La meute se rue, je les rejoins. Je ne vois plus très bien, je procède machinalement. En premier, ses yeux, ses sourcils, son nez, ses lèvres, son torse, sa nuque, ses bras, ses doigts, ses cuisses, son sexe, ses pieds, sa langue.
La loi ne demande pas compte au juge des moyens par lesquels ils se sont convaincus. Elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire dépendre particulièrement la plénitude et la suffisance d'une preuve.
Elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher dans la sincérité de leur conscience quelle impression ont faite sur leur raison les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense. La loi ne leur pose que cette seule question qui renferme toute la mesure de leur devoir. Avez-vous une intime conviction ?
L'accusée s'est tue. Elle est immobile désormais. Je ne me souviens plus, mais je ne crois pas avoir entendu ses paroles par la suite. Et puis, on a appelé le premier expert, le professeur H.
Françoise H, née le 15 novembre 1933, à Vauche, dans la Loire, mariée, anthropologue.
Anthropologue. Là, le professeur H a retiré ses petites lunettes rondes et a levé la main droite, comme si elle avait l'habitude de venir dans cet endroit, et elle a dit
« Je prête serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité. » Alors, ce que je veux dire après avoir étudié ce dossier...
Françoise H, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre aujourd'hui.
Merci à vous de me recevoir.
Le plaisir est pour nous. Alors, quelles sont vos versions des faits ?
Alors, oui... Ce que je veux dire, après avoir étudié le dossier, c'est que le matriarcat dont parle l'accusé est inspiré de la pièce Penthesilée d'Heinrich von Kleist, un auteur dramatique du 19e siècle, qui s'est lui-même inspiré d'un mythe grec antique, le mythe des Amazones. Le mythe des Amazones évoque une société contrôlée par les femmes, mais soit il s'agit d'une légende très loin de la réalité, soit il s'agit d'un fait avéré.
Mais pourtant, professeur H, excusez-moi de vous interrompre, les mythes se font parfois l'écho d'un temps ancien du monde qui a bel et bien existé.
Il faut que vous sachiez, c'est essentiel, qu'il existe deux sortes de mythes. Les mythes animaux, qui évoquent ce qui est l'acte fondateur de l'humanité, et une seconde catégorie de mythes, qui a pour but de justifier l'ordre établi. Ces mythes imaginent un monde antérieur qui fonctionnait mal et qu'il a fallu abattre pour construire un monde meilleur en Nouvelle-Guinée, par exemple. On raconte là-bas que le monde originel fonctionnait mal, qu'il était un peu brouillon. Les femmes avaient certes un pouvoir créateur, une sorte de bouillonnement grâce auquel elles inventaient toutes sortes de choses, mais ce pouvoir, elles s'en servaient mal. Elles avaient inventé l'arc et la flèche pour tuer le gibier, mais au lieu de tirer droit devant elles, elles tiraient en arrière et tuaient les hommes qui les suivaient. Elles tiraient en arrière et tuaient les hommes qui les suivaient. Les hommes.
Elles tuaient les hommes.
Oui, elles tuaient les hommes. Et les hommes ne cherchèrent pas à leur faire comprendre qu'il fallait tirer autrement. Ils les dépossédèrent de l'arc et des flèches, et eux sur s'en servir et tirer correctement. Bah oui, parce que dans ces mythes, les femmes créaient comme elles enfantaient, sans comprendre, sans tête. Mais heureusement que les hommes étaient là pour réguler cette puissance féminine anarchique. Ce que je veux dire, c'est que ces mythes sont là pour conforter le destin existant de chacun. Une certaine répartition des rôles entre masculin d'un côté et féminin de l'autre.
Votre démonstration est claire, professeur H. Mais revenons à l'affaire. Selon vous, aucun groupe de femmes n'a dans la réalité échappé à ce contrôle masculin. Et cette communauté, les Amazones, ce peuple qu'évoque l'accusé, ces guerrières qui, pour mieux tirer à l'arc, se coupaient un sein.
Alors, pensez à ce geste. Que dit l'accusé ? On raconte que les Amazones s'arrachaient elles-mêmes, ou s'arrachaient entre elles. Et pensez seulement à la cicatrisation qui devait suivre. Enfin, cela laisse pantois. Elles adoptent donc un comportement masculin, au point de nier par cette fameuse mutilation jusqu'à l'apparence de leur féminité. Ce témoignage nous montre bien que ces jeunes femmes se sont inspirées d'un mythe réécrit par un homme du 19e siècle. Nous sommes donc loin de toute réalité, et même et surtout de réalité anthropologique.
Quelles sont donc vos conclusions, professeur H ?
Pardonnez-moi, je vais être extrêmement triviale, mais ma conclusion est que ces jeunes femmes, en prenant pour modèle le peuple des Amazones, se sont, pardonnez-moi l'expression, bel et bien plantées. Voilà. Je n'ai plus rien à ajouter.
Une longue femme brune, en tailleur pantalon-veste, est alors apparue. Nonchalante, elle est venue s'installer à la barre et elle a dit avec une voix rauque, celle d'une fumeuse de cigarettes.
Sylviane A, née le 4 mai 1954 à Nade dans l'Allier, en concubinage philosophe.
À ce moment, je ne sais pas s'il s'agit du fruit de mon imagination, mais il me semble qu'elle a sorti de sa poche de veste un range cigarette en argent, orné de dessins, des fleurs. Et je crois qu'elle s'est allumée une clope.
Bon, j'ai longuement étudié le dossier Penthesilée. Il me semble qu'il s'agit là d'un cas certes fictionnel, mais tout à fait intéressant, qui décrit un mouvement de fédération de femmes qui viennent de subir un traumatisme d'une violence inouïe. Bon, ces femmes n'ont au départ rien de furie sanguinaire. Elles ne sont pas, au départ, pas décrites comme des guerrières peintes dans cette totale symétrie de l'autre sexe. Attention, hein. Je ne dis pas que ces femmes sont dénuées de violence. Les hommes masculins n'ont pas le monopole de l'agressivité et de la barbarie. Ce que je veux dire, et après avoir beaucoup étudié ce dossier, ce que cette histoire met en avant des différences fondamentales entre hommes et femmes par le biais du viol, des seins coupés, mais sans tomber dans la caricature, puisque ces femmes agissent avec barbarie pour, dans un premier temps, se défendre. Bref. Ce que je veux dire, c'est que ce mythe, par sa violence paroxystique, me semble un bon point de départ pour penser la relation homme-femme. Mon opinion est que le discours des femmes qui affirment « nous ne sommes pas différentes » conduit toujours à dire « nous sommes des hommes comme les autres, nous rentrons dans le même prototype humain ». En quoi la femme diffère-t-elle de l'homme ? Mais personne ne me demande jamais en quoi l'homme diffère-t-il de la femme. Faute de déconstruire ces mythes, je crois que nous restons prisonniers de cet imaginaire et du casting métaphysique des sexes. L'homme se définit par son esprit parce qu'il a été créé à l'image de Dieu, et la femme par son corps parce qu'elle a été créée pour donner une descendance à l'homme. Ma conclusion ? Votre conclusion ? Ma conclusion est qu'on ne peut comprendre le langage moderne sans savoir d'où il vient.
Et là, dans une démarche chaloupée, elle est allée s'asseoir dans l'assemblée. Une jeune femme est entrée dans la graine. Ses grands yeux brillaient. Intimidée, elle s'est avancée et elle s'est placée là, face au juge. Elle a pris une longue inspiration et elle a dit
« Anna S., célibataire. Je travaille en grande surface. Je suis caissière. Hôtesse de caisse, c'est un peu comme hôtesse de l'air. Je prête serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Je crois qu'il faut que je commence par le début. Déjà, vous dire que j'ai fait des études. La caisse, c'est pas toute ma vie. Je faisais mes études et j'avais besoin d'argent. Il suffisait d'avoir un CV et un RIB, de dire « je cherche un job étudiant », c'était facile. J'ai été direct embauchée, formée par une ancienne. Elle m'a fait faire le tour du magasin, le tour des vestiaires, la salle de pause, la casse ou la poubelle, si vous préférez. Et puis elle m'a montré hyper heureuse la caisse centrale, là où vous récupérez votre caisson, le blé. Et c'était tout, j'étais formée. Après, c'était rapide. Scanner les articles, faire le sous total, indiquer le montant au client, demander la carte de fidélité, prendre le moyen de paiement, rendre la monnaie, la pièce d'identité si vous payez par chèque, le ticket de caisse, le sourire, tenez merci, au revoir, bonne journée. Enfin, en quelques jours, je suis devenue une experte. Une experte du passage d'articles minutes et du rendu monnaie. Ah oui, je me souviens, il fallait aussi apprendre par cœur tous les numéros de code des aliments vendus à l'unité. Le citron, la salade verte, le thym, les artichauts. Heureusement, j'avais des penses bêtes sur la caisse. Et puis, il y avait les collègues, heureusement. Isabelle, Marie, Nicole, Nadine, Panté. Et puis, les questions. Des centaines de questions par jour qui défilaient inlassablement. Où sont les toilettes ? Vous n'avez pas de sac ? Vous êtes ouverte ? Vous n'avez pas de sac ? Où sont les toilettes ? Vous êtes ouverte ? Vous n'avez pas de sac ? Où sont les toilettes ? Vous êtes ouverte, vous n'avez pas de sac. Où sont les toilettes ? Vous êtes ouverte ? Vous n'avez pas de sac. Où sont les toilettes ? Vous êtes ouverte, vous n'avez pas de sac. Hi girls, and welcome to Woman Now. Bonjour tout le monde. So today, it's Friday. It's 3 o'clock in the afternoon, and like every day, your husband has gone to work. And you've done all the cooking, all the washing, all the lessive, and you're all alone. And you're pregnant. But maybe it's a boy, and you wanted a girl. Maybe you don't have enough money. Maybe your husband is parti avec une autre femme. And maybe the kid is going to be handicapped. Well, girls, I have the solution. It's called A-B-O-R-T-I-O-N, abortion. And we're going to do it together, at home. All right. So don't worry. It's easy, it's cheap, and it's not painful. All you will need is some gomme à pas, a clue, and a fil de nylon. Samantha? Thank you, sweetheart. All right, so now you're going to have to follow me step by step. You need to tie a knot around the clue like that. And then I need you to open your mouth really wide. And then we're going to go all the way down. All right? Okay, so here we go. All right. All right. You feel it going down. Like you feel it going all the way down your body, right? And I'm going to start taking your hand and trying to pull it out, all right? So you just start pulling it out. Maybe it might take a little while, but just start opening and you pull, and then you pull it, and you pull it, and you pull it, and you pull it, and here it is. It's your little baby, and it's dead now. Aww. It's time to sing that song again and say so long again until we say hello on our next show. It's time to sing goodbye again till we say hi again. So long. All right. Well, thank you, everybody, and I'll see you next week. We'll see how we can bake the best pecan pie for the whole family. Bye. Mademoiselle. Mademoiselle, vous êtes ouverte? Moi, non. Ma caisse, oui. Alors, vous êtes fermée? Elle est ouverte? Vous êtes une caisse? Pourquoi vous répondez pas? Eh, dis, pourquoi tu réponds pas? Tu veux que j'appelle ton chef? Il est où, ton chef? J'ai pas toute la journée, je suis pressée, moi. Alors, t'es fermée? Un soir, j'ai littéralement glissé de ma chaise. Il était 21h, je me suis retrouvée sur le carrelage. Et Panté s'est approchée. Elle m'a tendu la main et elle a dit « Tu veux venir avec moi ce soir au local ?» Je sais que m'attendait chez moi seulement une boîte de raviolis, alors j'ai dit « Ouais, ok, oui ». Je dirais que ce local était une sorte de confessionnal, comme à l'église, vous savez. On se retrouvait là et très vite, on a eu l'idée de monter une pièce de théâtre. Mais tout a basculé lorsque Panté s'est mise à fréquenter d'un peu trop près ce chef, le chef d'une autre fédération, Achille. Tout a basculé lorsque les étoiles se sont mises à déborder de ses yeux. J'ai rien d'autre à ajouter.
Anna S. est alors allée s'asseoir parmi l'auditoire, le visage fermé. Anna S. est alors allée s'asseoir parmi l'auditoire, le visage fermé.
Coupable ! Non coupable ! Coupable ! Non coupable ! Je me répétais ce qu'avait dit le juge. Quelle est votre intime conviction? Et je n'arrêtais pas de me demander, ce qui m'empêchait littéralement de me concentrer. Mais une intime conviction, qu'est-ce que c'est? Finalement, le dernier témoin. Une femme immense et blanche est alors apparue, dans une robe à fourreau avec du fond de teint posé sur la peau en touche très épaisse. Elle a dit...
J'exhibais ma carte senior sous les yeux goguenards des porcs qui partirent d'un rire obscène vers ma silhouette de sirène. Partout c'est la prohibition, alcool à la télévision, papier clopeux manque de fric. Et vieillir dans les lieux publics. Partout, c'est la prohibition. Parole, écrit, fornication. Foutre interdit à 60 ans. Ou scandale et ricanement. Les vieux sont jetés aux orties. À l'asile, au château d'oubli. Voici ce qui m'attend demain, si jamais je perds mon chemin. J'ai d'autres projets, vous voyez. Je vais baiser, boire et fumer. Je vais m'inventer d'autres cieux, toujours plus vastes et précieux. Je suis vieille et je vous encule avec mon look de libellule. Je suis vieille sans foi ni loi. Si je meurs, ce sera de joie.
Nelly Griselidis. Appelez-moi Agnès, Agnès la grande prêtresse.
Ah, je dis jamais mon âge. Je suis formatrice pour les jeunes filles de la fédération fondée par Panté.
Salut Panté ma biche.
Les faits? C'est quoi ça les faits? Panté a vécu, elle s'est brisée les ailes ma gazelle. Faut vivre putain. Ce dont je me souviens. Je me souviens des poubelles le matin et des poubelles le soir. Je me souviens, je mangeais des noix le matin. 200 grammes. Ma petite chambre. Simple. Simple. Un lit, une table de chevet, une chaise. Ils se regardaient tous en chien de faïence. Je me souviens du premier client. J'étais étudiante, le même âge que la gazelle, j'étais belle. Ils le disaient tous, mais je savais pas ce que ça voulait dire. Je jouais à l'époque. Je jouais la souplesse, le désir, tout un tas de trucs sacrément doués, la gamine. Les clients payaient, ils ouvraient la porte, ils fermaient la porte, ils payaient, ils ouvraient la porte, ils fermaient la porte, ils payaient, ils ouvraient la porte, ils fermaient la porte. Ma petite boutique, quoi. Mais au bout du troisième, ça devenait long. La poubelle débordait, mais moi je m'en foutais. Je voulais qu'ils voient qu'ils étaient pas les seuls, l'unique, qu'ils étaient toute une communauté à penser qu'il n'y a pas de limite à ce que je pouvais donner et recevoir. J'avais pas de faim. Je me souviens aussi de New York. Les billets à flot, le champagne, les vedettes, la cocaïne, de bonhommes qui cherchent un animal domestique pour un soir, d'hommes malades, d'avoir trop eu, qui n'ont plus de désir, orphelins. Je me souviens aussi des répétitions. Et de la sensation d'avoir tout vu, tout entendu, d'être allé là où il fallait pas. C'est loin qu'il faut continuer, alors j'ai dit oui. J'ai dit oui, d'accord pour les jeunes filles. Vous en avez des questions, vous? En guise de conclusion, ben, faut vivre, quoi. Moi, je crois que la petite a eu raison de succomber à l'amour. Enfin, je veux dire, la fédération s'est voilée la face, un peu comme moi à l'époque. Je crois qu'il faut pas penser l'avenir des hommes ou... l'avenir des femmes, mais celui de la communauté dans laquelle ils vivent ensemble. Non? Vous pensez pas? Moi, je crois qu'aujourd'hui, la liberté est si grande que le couple, c'est comme une œuvre d'art. Mais pas une œuvre d'art de musée accrochée à un mur blanc, non. Une œuvre d'art en constant mouvement. Comme un spectacle vivant. Alors, je crois que Panté a vu juste. J'ai rien d'autre à ajouter.
Qu'est-ce que c'est une intime conviction? Comment on sait? Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est moral? Est-ce que c'est une idée? Est-ce que c'est dans mon âme? Mais c'est quoi l'âme?
Mon intime conviction, c'est que Panté est allé au bout d'une utopie. Son utopie. Mon intime conviction, c'est que Panté s'est rendu compte de son erreur alors qu'elle était déjà l'actrice d'une terrible tragédie. Je crois que ces femmes avaient un rêve. Ces femmes souhaitaient rencontrer un témoin de leur existence. Celui ou celle à qui l'on raconte les événements du jour, les péripéties ordinaires, les joies et les chagrins, les réussites et les échecs. Partager un espace d'intimité afin de se montrer plus ou moins sans phare, sans masque. Quelqu'un à côtoyer dans le silence. Quelqu'un qu'on puisse comprendre à demi-mot. Par-delà le désir sexuel et l'amour passionnel. Ces femmes cherchaient dans ce local des amitiés confiantes. L'appartement est étouffant ou mortifère s'il n'est pas constamment ouvert au tiers, au monde commun. L'erreur de Panté a été de croire qu'elle pouvait, dans sa bataille, vivre sur une île, un îlot éloigné du monde commun, proche ou lointain. On ne peut pas aller vers autrui en ne fréquentant que la moitié du peuple. C'est l'inverse. C'est l'ouverture au monde, à autrui en général, qui permet que se forment des apartés et qu'il y ait des couples, des tête-à-tête amoureux ou amicaux. Nous assistons à une véritable révolution de la vie privée et nous n'avons pas de modèle. Voilà la vérité. Et l'histoire le sait bien, aucune révolution ne saurait avoir lieu sans violence. Je déclare donc Panté non coupable. La victime. La victime, Achille A, née à Paris en 1981. La victime apparaît sous une douche de lumière. En réalité, il n'en reste pas grand-chose. Tout juste quelques morceaux de viande sanguinolents superposés qui forment une sorte de cairn, comme ceux qu'on trouve en haute montagne. Certaines personnes de l'assistance à sa vue s'évanouissent. Je vois un monsieur vomir dans un sac en plastique. Maître Talon, je veux simplement ajouter que le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Un meurtre est puni de 30 ans de réclusion criminelle. Et puis elle est partie presque en courant, je crois qu'elle pleurait.
qu'elle essuyait des larmes avec son coude.
Je t'aime, t'aime tant, viens, je t'en supplie, moi, je t'attends. Embrasse-moi, caresse-moi, et moi laisse-te là, de ton ombre.
La chambre des délibérations est confinée.
N'a pas de
joie. Les portes sont gardées par des gendarmes. Les juges sont assis autour d'une table. Une urne est posée sur la table. C'est d'elle que va sortir la décision collective. Les juges et les jurés débattent. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de cette femme? Comment cette femme, que les experts psychiatriques reconnaissent saine d'esprit, tout comme je pense l'être, en est arrivée là? Comment son esprit a-t-il dérapé vers ces méandres sordides? L'accusée est-elle coupable? Et surtout cette question, quelle peine devons-nous lui infliger? Les débats prennent plusieurs heures. Lorsqu'un juge a envie de faire pipi, un gendarme l'accompagne. Parce que les juges n'ont être soumis à aucune influence extérieure. Une des juges est au premier jour de ses règles. Alors elle dit simplement, j'ai mes règles et c'est tout. Tout peut être dit dans cette chambre car il s'agit précisément du lieu des catimini. La cérémonie se déroule, mais à un moment, alors que l'ambiance est la plus noire et la plus feutrée, la première comédienne, celle que nous suivons depuis le début de ce texte, se lève et s'écrie « J'ai trouvé ce que c'est !»«
J'ai trouvé ce que c'est !»« Je peux désormais trancher parce que j'ai une intime conviction. » Mais c'est pas une science exacte, d'ailleurs c'est pas une science du tout, c'est autre chose. Ça s'est immiscé en moi comme ça. Tout à coup, des éléments se sont ajoutés et superposés. Et en se superposant, ils m'ont persuadé lentement que j'avais compris les faits. Coupable? Non coupable? Je sais pas, j'ai une intime conviction. C'est un dessin. Je vous fais un dessin?
Masculin ni 100% féminin. Tenez, vous voulez que je vous fasse un dessin? Je vous ferai un dessin. On se dit trop souvent qu'il y a une ligne droite entre l'homme et la femme. Alors, je vous dis qu'il n'y a pas une ligne. Il y en a au moins une dizaine. Je les ai comptés. 10 axes selon lesquels on peut dire qu'on est masculin ou féminin. Là, c'est le féminin. Au milieu, le centre de tout, c'est le féminin. À l'extrémité, il y a le masculin. On distingue masculin, féminin. Comment? Il y a les chromosomes XY, XX. Là, on a les hormones. Androgènes, estrogènes et... Un mélange, les hormones. Là, on a le côté génital, l'appareil reproductif. Il y a les autres apparences. Ça, c'est masculin. Il y a la question juridique. Un policier veut savoir, t'es un homme ou une femme? Il demande des papiers, il ne demande pas de les habiller. On a le côté social. Quel rôle est-ce qu'on joue? Est-ce qu'on est camionneur ou est-ce qu'on est infirmière? Il y a les vêtements. On porte ce que je porte maintenant ou ce que je vais porter ce soir. La sexualité. Avec qui est-ce qu'on couche? On a le côté mental. Comment est-ce que nous pensons? Ah tiens, toi tu penses comme une femme. On a l'âme. Ce qu'on sent au fond de soi. Est-ce que je sais que je suis homme ou femme? Alors chacun, il y a là environ 10 millions de possibilités. Chaque personne peut tracer son profil. Je trace les miens. Au niveau chromosome, je suppose que je suis XY. Génital, je vous assure, masculin. Au niveau physique, je n'ai pas la voix très très profonde. Autrement, plus ou moins masculin. Au niveau juridique, mon passeport, mon acte de naissance et tout, disent que je suis un homme. Social, je travaille dans un métier où 75% des pratiquants, des traducteurs, sont femmes, des traductrices. Vêtements, quand je veux, je m'habille plus féminin que grande partie des femmes. Donc, totalement féminin. Sexualité, je suis hétéro. Mentalité, j'ai testé, je suis peut-être moitié-moitié. Dans mon âme, je suis un homme, je le sais, je n'ai pas de doute. Voilà mon profil. Nous ne sommes pas une ligne droite. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes beaucoup plus complexes qu'une ligne droite. C'est un zigzag, c'est tout un puzzle. Et tout le monde est comme ça. Tout le monde. Et ce mélange masculin-féminin. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui possède un profil soit totalement homme, soit totalement femme. Donc ne me posez pas de questions, vous êtes masculin ou féminin. Je suis, comme tout le monde, un gros mélange. Mais c'est intéressant.
Voilà, du sang sur les roses, c'est terminé.
Du sang sur les roses, c'est terminé. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, pour cette très belle lecture. Petit rappel, Du sang sur les roses est un texte écrit par Julie Rossello, que l'on salue, mis en scène par Lucie Rébéré avec nous dans le studio, qui a pris la parole un moment, mais que l'on n'entend pas à l'espace 44, qui a joué le rôle d'Iris Tristram, je vais y arriver. Voilà, donc Du sang sur les roses joue depuis mardi à l'espace 44 et c'est encore ce soir et demain à l'espace 44 à 20h30. Il nous reste un petit quart d'heure pour discuter peut-être avec vous. Je rappelle qui est avec moi, donc 7 jeunes filles: Lucie, Margot, Camille, Alice, Laureline, Margot encore et Valentine. Donc vous avez entendu, elles sont toutes comédiennes. Je crois que vous êtes rencontrées, en tout cas pour la plupart d'entre vous, au conservatoire du 5e arrondissement à Paris.
Oui.
C'est ça?
Oui.
Vous étiez toutes?
Non.
Je suis donc la pièce rapportée.
Alice, la pièce
Alice
rapportée.
Alice Pellignan, voilà. Je connaissais Lucie Rébéré depuis un petit moment. Et c'est, donc elle a fait appel à moi pour intégrer le projet. Et avec ses comédiennes du 5e arrondissement.
On s'est rencontrés là.
Et alors cette aventure du sang sur les roses, aventure féminine quasi totale, a commencé en...
On peut saluer d'ailleurs nos partenaires, Amandine Livet à la scénographie, Guillaume Rogalski pour les lumières et Quentin Dumais pour notre création sonore qui n'était pas là dans notre studio aujourd'hui. Mais on les embrasse tous les trois, donc il y a quand même deux hommes... en régie avec nous tous les soirs à l'espace 44.
Et donc l'aventure a commencé en août 2012 à Lyon. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu, peut-être Lucie, nous raconter comment ça a commencé, ou l'une des comédiennes, comme vous voulez?
Alors effectivement, on a fait une première étape de travail déjà en août l'année dernière à l'espace 44. On a fait 10 jours, André Sanfratelet nous a accueillis dans son théâtre pour une première étape de création, de recherche à partir de thèmes d'improvisation, de questions posées aux comédiennes. Et toutes ont répondu à ces questions par toutes sortes d'impro, de création de tableaux visuels, de petites scénettes. Julie Rossello, après, l'auteur, passait... quelquefois en répétition et se nourrissait des filles comme moi je m'en suis nourrie aussi. Elle se nourrissait des filles, de leur singularité, de leur personnalité, de leur imaginaire, pour écrire et travailler après en deuxième étape de travail. C'est vite imposé malgré tout la pièce Penthésilée, donc d'Heinrich von Kleist, l'auteur dramatique allemand du 19e siècle dont parle Françoise H. C'est imposé Heinrich von Kleist pour une bonne raison, c'est qu'on s'est dit qu'il fallait peut-être partir de l'extrême féminisme, en tout cas d'un groupe de femmes entre elles qui vont jusqu'à tuer les hommes, tuer, se couper un sein aussi dans cette violence-là, partir de cette extrémité féministe pour après nous dérouler toutes nos petites questions beaucoup plus personnelles et beaucoup plus je dirais intime aussi dans la société aujourd'hui où on est avec les filles. Donc voilà, on part de l'extrême pour aller vers quelque chose, je crois, de plus personnel. Ça, c'était la première étape. Ensuite, donc Julie a écrit le parcours là que vous venez d'entendre, et on a fait également une dernière étape de travail au Lila en scène, donc à Lila à côté de Paris. Et d'ailleurs, on remercie Claire Accard qui nous a accueillis dans son petit théâtre pour construire en quelque sorte ce qui est présenté là tous les soirs à l'espace 44. Je sais pas, après les filles, si vous voulez ajouter des choses.
Témoignage.
Bah le lieu de l'espace 44 était quand même
Enfin, je pense qu'on peut aussi les remercier parce qu'ils étaient quand même d'un accueil, d'une générosité, d'une confiance assez exceptionnelle. Et je pense que ce projet, on ne serait pas arrivé là si on n'avait pas eu une telle écoute de la part de la structure à la base. Parce que ça a été quand même créé dans cet espace avant tout.
Vous avez eu une semaine ou deux semaines de résidence en août là-bas ?
10 jours.
D'accord, entre les deux. Et donc, si j'ai bien compris, Julie était avec vous pendant ces 10 jours. Et comment on pourrait dire, elle s'est inspirée de vos propositions plus intimes et a réécrit
À un moment aussi, elle nous avait demandé à chacune d'enregistrer sur un petit dictaphone des secrets aussi qu'on lui avait livrés pour aussi voilà, être au plus près de nous, de ce qu'on avait envie de dire et de nos petits secrets.
Et puis il y a aussi une question de langage, c'est-à-dire comme on a aussi beaucoup travaillé à partir d'improvisation, notamment sur le résumé de l'histoire de Pantésilée qui est faite au début de la pièce. Elle a vraiment écrit. J'improvisais en racontant cette histoire et Julie, en m'écoutant, a réécrit ce texte par rapport à ma parole à moi. Donc de temps en temps, ça nous permettait de même si on raconte quelque chose qui est quand même loin de nous et qui est extrême à être dans un univers qui quand même qui nous ressemble et qu'on a réussi à définir en août, quoi. Ça a été vraiment un travail qui s'est fait comme ça.
Retrouver une oralité propre à chacune aussi, ouais. J'ai l'impression.
Puis tout ce qu'il y a de visuel aussi dans ce spectacle fait partie aussi des improvisations que là malheureusement on peut pas vous montrer, hein, évidemment. mais toutes les parties visuelles du spectacle partent aussi de nos propositions à partir des improvisations. Donc c'est un vrai mélange de cette comédienne, d'une auteure, d'une metteur en scène, et c'est une vraie collaboration. Pour monter ce texte et en faire ce spectacle.
C'est vrai que la mise en scène, on n'en a finalement pas beaucoup parlé. C'est un spectacle très visuel, comme tu le disais, Alice. J'y étais mardi à la première. C'était un vraiment très très beau spectacle. Des parties chorégraphiées, un grand travail sur le corps. Lucie, est-ce que tu as quelque petite chose à nous dire sur ce travail-là, sur le corps ?
Sur le travail sur le corps, je crois que c'est un peu notre théâtre à nous aussi, nos envies, notre énergie de groupe. On fait aussi un spectacle vivant, donc il y a le corps, il y a la voix, il y a l'organique, il y a le souffle, il y a de la transpiration, il y a de la morve, il y a des larmes, il y a tout ça. Non mais c'est vrai, et du coup oui, on a fait un travail de corps et de toute façon, quand il y a autant de comédiens, enfin cette comédienne au plateau, c'est pas rien. Ce qu'il y a de plus beau, c'est aussi le groupe et leur corps sur le plateau au présent, et pour trouver l'unité, vu qu'en plus vous avez entendu, c'est des paroles assez différentes ou des monologues qui peuvent se contredire, pour les rassembler c'est le corps, effectivement, je pense.
Et puis il y a ces petits moments chorégraphiés, c'est aussi pour essayer de raconter des choses de nous sans parler, sans être dans une explication, mais dans quelque chose de beaucoup plus sensitif. Et ça, c'est un travail assez important qu'on a fait.
Donc vous jouez encore ce soir et demain, malheureusement, heureusement pour vous, mais malheureusement pour les auditeurs, c'est complet. En revanche, il y a une liste d'attente.
C'est bien complet, effectivement, mais il y a toujours quelques places qui se libèrent au dernier moment, donc n'hésitez pas à peut-être appeler, et puis plus il y a de gens qui appellent, plus on pourra le rejouer très bientôt.
Et quelles suites vont être données après cette semaine, cette presque semaine de représentation, que va-t-il se passer pour Du sang sur les roses?
Alors il y a plusieurs pistes là pour la suite. Alors je sais pas les filles, comment pensez-vous, on en parle ou on fait les mystérieuses?
On fait des grands gestes.
Non, il y a plusieurs pistes, effectivement. Bah, on a envie que ça continue, de grandir aussi le projet. On a envie que ça grandisse. On a, parce que c'est, on a très très peu de moyens, comme beaucoup de projets théâtraux en ce moment en France. On a beaucoup, on a envie d'avoir des sous pour grandir les choses. On a envie d'avoir de l'espace, de jouer dans des plus grands lieux, des lieux différents aussi. On a des pistes à Paris. Je sais pas, j'en parle ou pas, peut-être. Bon, on est sur la plus rebelle des radios, alors on peut en parler. Non, il y a peut-être une piste à Paris, avec un prix qui s'appelle Paris Jeune Talent. On est finaliste, donc déjà là, on est très contente. On va voir pour la suite. Et puis, voir comment le. Moi, je pense qu'on peut aller encore plus loin, que ça peut grandir ce projet-là. Donc, il y a. On va travailler encore. Il nous faut de l'espace travail encore, je crois.
Et on peut rappeler peut-être l'utilité et la nécessité des scènes découvertes de ce dispositif-là à Lyon. En tout cas, je connais celles de Lyon qui accompagnent vraiment et qui peuvent permettre à des projets comme ça d'exister et de laisser la chance à des jeunes équipes dynamiques.
Oui, et d'ailleurs, on peut rappeler que ces scènes découvertes, elles existent grâce à une aide de la ville, de la région, mais qu'elles sont tout le temps mises en danger. Chaque année, elles courent après les subventions et les aides pour qu'elles existent. C'est très compliqué pour ces petites scènes. Donc, je trouve ça beau qu'elles continuent à accueillir autant qu'elles peuvent de jeunes compagnies et que le public se mobilise comme il se mobilise cette semaine pour soutenir pas seulement la compagnie, pas seulement le projet, mais aussi ces petits espaces qui sont un peu en voie de disparition.
Voilà, bah écoutez, je ne sais pas si l'une d'entre vous a quelque chose à rajouter sur ce beau spectacle, sur ce beau projet du sang sur les roses. Sinon, je...
Mais on espère parce que là on joue encore deux fois, mais j'espère qu'on pourra revenir jouer à Lyon. Donc comme ça, si on nous entend, peut-être que ça peut marcher.
Revenir jouer à Lyon, ouais. Vous espérez ? Ouais. Pour des raisons particulières ou
non, mais parce que c'est agréable. Je pense qu'il y a quelque chose de plus tranquille, par rapport à la façon dont on est reçu à l'espace 44, je pense qu'on n'aurait pas forcément cet accueil-là dans un théâtre, dans des petits théâtres à Paris, même si ça existe. J'ai l'impression qu'il y a un accueil particulier et des structures qui prennent le temps de la rencontre et qu'on puisse et faire 10 jours de résidence et revenir pour jouer une semaine. Et voilà, et que c'est une grande chance. Donc, pour sortir aussi de Paris, c'est plutôt très bien, enfin, de jouer en dehors de Paris, quoi.
On vous réaccueillera avec plaisir ici, en tout cas, si vous revenez.
Merci beaucoup.
Avec moins de soucis techniques, j'espère. Pour terminer, un petit point actu théâtre à Lyon pour cette semaine et la semaine prochaine, avec toujours une sélection de petits, non pas petits, mais de projets que l'on défend à Radio Canu. Vous pouvez voir, et ce soir et demain, si vous n'avez pas de place à l'espace 44, hein, aussi ce projet vous intéresse aussi, au Croiseur, donc dans le 7e arrondissement, le spectacle Boucherie de l'Espérance de l'Esperluette Théâtre. Demain également un très beau spectacle qui s'appelle Cette rose plus tard. Décidément les roses nous parlent aujourd'hui. Cette rose plus tard, c'est une mise en musique de texte de Paul Celan. Ce sera au Centre d'histoire de la résistance et de la déportation. Et la semaine prochaine, du 21 mai au 1er juin, au Théâtre des Clochards Célestes, une autre scène découverte dans les pentes de la Croix-Rousse également. Le festival Courte Scène. Et donc chaque soir, deux pièces seront jouées. Le projet Foi, un projet du collectif BIS, accessible pour aux adolescents dès 14 ans. Et Premier Amour, du Ring Théâtre, le Ring Théâtre qui est la compagnie du projet du sang sur les roses dont on vient de parler.
Effectivement, au Clochard Céleste, Premier Amour est en fait mis en scène par Amandine Livet, scénographe du projet. Voilà, donc allez-y, c'est chouette. Et juste, simplement, je voulais dire, là vous avez entendu un gros cri de femme, mais tous les soirs à l'espace 44, après du sang sur les roses, il y a un petit monologue de Ristos qui dure environ 35 minutes, qui est un peu la réponse du guerrier à toutes ces Amazones présentes au plateau, mis en scène par Guillaume Fulconis avec Kevin Sinesi qui joue Ajax dans ce monologue. Voilà, donc on vous invite aussi à découvrir Ajax à l'espace 44.
Voilà, la boucle est bouclée. Je vous remercie à nouveau toutes pour votre présence et votre engagement et cette très belle lecture.
Merci beaucoup.
Et merci. Je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir.
Au revoir.
À bientôt.